Les Essais, livre 2, chapitre 17, sur la présomption. Il est une autre sorte de gloire, c'est la trop bonne opinion que nous nous formons de notre valeur. C'est une affection exagérée que nous nous portons et qui fait que nous avons de nous-mêmes une représentation différente de ce que nous sommes réellement. Il en est de même dans la passion amoureuse qui prête des beautés et des grâces à la personne qui en est l'objet, et fait que ceux qui sont épris voient l'objet aimé différemment et plus parfait qu'il n'est, parce que leur jugement est altéré. Je ne voudrais pourtant pas que, par peur de tomber dans ce travers, on néglige de se connaître et que l'on pense être inférieur à ce que l'on est. Le jugement doit toujours conserver ses prérogatives. Il lui faut donc voir sur ce point comme ailleurs ce que la vérité lui présente. S'il s'agit de César, qu'il ose se considérer comme le plus grand capitaine qu'il y ait au monde. Nous ne sommes faits que de conventions. Elles nous entraînent et nous en oublions la véritable substance des choses. Nous nous accrochons aux branches sans nous occuper du tronc. Nous avons enseigné aux dames à rougir de qu'elles entendent seulement ce qu'elles ne craignent nullement de faire. Nous n'ont pas appelé nos membres par leur nom, et pourtant nous ne craignons pas de les employer à toutes sortes de débauches. Les conventions nous défendent d'exprimer par des mots et des choses licites et naturelles, et nous les suivons. La raison nous défend de faire des choses mauvaises et illicites, mais tout le monde s'en moque. Et me voilà empêtré dans les règles de la convenance, puisqu'ils ne permettent pas que l'on parle de soi ni en bien ni en mal. Bon, on les laissera donc de côté pour cette fois. Ceux que le hasard, qu'on doive l'appeler heureux ou malheureux, a conduits à passer leur vie dans quelque autre fonction, peuvent prouver par leurs actions publiques quelle sorte d'hommes ils sont. Mais ceux que leur sort a maintenus dans la foule et dont personne ne parlera si eux-mêmes ne le font, sont excusables s'ils osent parler d'eux-mêmes à ceux qui ont tout intérêt à les connaître, comme ce fut le cas de Lucilius, selon Horace. Il confiait tous ses secrets à des écrits comme à des amis. Heureux ou malheureux, il ne cherchait jamais d'autres confidents. Ainsi l'on voit toute sa vie décrite comme dans un tableau qui serait consacré aux dieux. Lucilius confiait au papier ses actions et ses pensées. Il s'y peignait tel qu'il pensait être. Rutilius et Scaurus n'ont pas été moins crus ni moins estimés pour cela. Je me souviens donc que, dès ma plus tendre enfance, on avait remarqué chez moi je ne sais quelle attitude et les gestes qui manifestaient une vaine et sotte fierté. Je dirais d'abord qu'il n'est pas mauvais d'avoir des propensions et des comportements qui nous sont si personnels et si intégrés en nous que nous ne pouvons ni les ressentir ni les identifier. Le corps garde quelques plis de ses inclinations naturelles sans que nous en ayons conscience et sans notre consentement. Conscient de leur beauté, c'est avec une certaine recherche voulue qu'Alexandre penchait un peu la tête sur le côté et qu'Alcibiade avait adopté une voix douce et grasseyante. Jules César se grattait la tête avec le doigt, ce qui est bien l'attitude d'un homme en proie à des réflexions pénibles. Et Cicéron, me semble-t-il, avait coutume de froncer le nez, ce qui témoigne d'un naturel moqueur. De tels mouvements peuvent se manifester en nous à notre insu. Il en est d'autres qui sont artificiels et dont je ne parlerai pas, comme les salutations et références par lesquelles on cherche à se donner, le plus souvent à tort, l'honneur d'être humble et courtois. On peut en effet être humble pour en tirer gloire. Je suis assez prodigue en coups de chapeau, notamment en été, et je n'en reçois jamais sans y répondre, quelle que soit la qualité de l'homme, sauf s'il est à mon service. Je souhaiterais que certains princes que je connais en soit plus économe et qu'il les dispense à meilleur escient, car étant ainsi distribués inconsidérément, ses saluts sont sans valeur. Et au chapitre des attitudes exagérées, n'oublions pas la morgue de l'empereur Constance, qui en public gardait toujours la tête droite, sans la tourner ni la pencher ici ou là, sans même regarder ceux qui à côté de lui le saluaient. Il gardait le corps immobile, sans même le laisser suivre le mouvement de sa voiture, sans oser cracher, ni se moucher, ni s'essuyer le visage devant les gens. Je ne sais si ces gestes que l'on remarquait chez moi relevaient de ma nature profonde et si j'avais vraiment quelque secrète propension à ce vice. Il se peut, car je ne puis répondre des mouvements de mon corps. Mais pour ce qui est des mouvements de l'âme, je veux dire ici ce que j'en ressens. Il y a deux aspects dans cette attitude présomptueuse, à savoir s'estimer trop soi-même et ne pas estimer assez les autres. Pour l'un, il me semble d'abord qu'il faut tenir compte de ce qui suit. Je suis sous l'influence d'un défaut de mon esprit qui me contrarie parce que je le considère comme inique et encore plus comme importun. J'essaie de le corriger, mais je ne puis l'extirper. Il me conduit à déprécier les choses que je possède et rehausser d'autant celles qui ne m'appartiennent pas, me sont étrangères ou absentes. Et cette disposition s'étend bien loin. De même que, du fait qu'ils ont autorité sur elles, les maris regardent leurs femmes avec un injuste dédain, ou que certains pères en font autant envers leurs enfants, c'est ce que je fais moi aussi. Et entre deux ouvrages semblables, je donnerai toujours plus de poids à l'autre qu'au mien. Ce n'est pas tant parce que mon zèle a progressé et a amélioré, trouble mon jugement et m'empêche d'être satisfait, que du fait que la possession elle-même engendre le mépris envers ce que l'on domine et dont on dispose. Les sociétés, les mœurs et les langues des pays lointains me plaisent. Et je m'aperçois que le latin, par sa noblesse, me séduit plus qu'il ne devrait, comme il le fait pour les enfants et le petit peuple. La gestion domestique, la maison et le cheval de mon ami, à valeur égale, valent mieux que les miens, parce qu'ils ne sont pas les miens. Et d'autant plus que je suis très peu au courant de mes propres affaires. J'admire l'assurance et la certitude dont chacun fait preuve pour lui-même, alors qu'en ces matières il n'y a quasiment rien que je sache savoir, ni que je puisse oser prétendre savoir-faire. Je n'ai pas un relevé établi d'avance de mes ressources, et n'en ai connaissance qu'après coup. Je doute de moi-même autant que de toute autre chose. D'où il résulte que, si je mène quelque affaire à bien, j'attribue plus volontiers cela à la chance qu'à mon action, d'autant plus que j'envisage tout ce que j'accomplis un peu par hasard et avec inquiétude. De même, parmi toutes les opinions que l'Antiquité s'est formée sur l'homme en général, celles vers lesquelles je suis porté, que j'adopte le plus volontiers et auxquelles je m'attache le plus, ce sont celles qui nous méprisent, nous avilissent et anéantissent le plus. La philosophie ne me semble jamais avoir si beau jeu que quand elle combat notre présomption et notre vanité, quand elle reconnaît de bonne foi son irrésolution, sa faiblesse et son ignorance. Il me semble que la mère nourricière des opinions les plus fausses, qu'elles soient publiques ou privées, c'est la trop bonne opinion que l'homme a de lui-même. Ces gens qui se penchent à califourchon sur les psychiques de Mercure et qui voient si loin dans le ciel me font grincer des dents. Puisque je rencontre dans l'étude que je mène, et dont le sujet est l'homme, une telle variété de jugements, un si profond labyrinthe de difficultés entassées les unes sur les autres, tant de diversité et d'incertitude dans la philosophie elle-même, mais comment pourrais-je croire ces gens-là, qui n'ont pas pu venir à bout de se connaître eux-mêmes, ni de connaître leurs conditions, qui est pourtant constamment devant leurs yeux, qui ne savent comment se meut ce qu'eux-mêmes font mouvoir, qui ne savent ni décrire ni expliquer les ressorts qu'ils tiennent et manipulent eux-mêmes. Comment pourrais-je les croire au sujet de la cause du flux et du reflux du Nil. La curiosité qui les pousse à connaître les choses est un fléau qui a été donné aux hommes, dit la Sainte Écriture. Mais pour en revenir à mon propre cas, il est bien difficile, me semble-t-il, qu'aucun autre homme s'estime moins que moi, voire qu'aucun autre m'estime moins que je ne m'estime moi-même. Non, je me considère comme quelqu'un d'ordinaire, mais aussi coupable des défauts les plus bas, les plus vulgaires, que je n'excuse ni ne récuse. Je ne m'estime pas plus que ce que je sais valoir. S'il y a en moi de la présomption, elle est superficielle et infusée en moi par le fait de ma complexion qui me trahit. Elle n'a pas véritablement le corps qui puisse donner prise à mon jugement. J'en suis arrosé, mais pas teint. Car en vérité, en ce qui concerne l'activité de l'esprit, je n'ai jamais produit quelque chose qui me satisfasse en quoi que ce soit. Je ne me contente pas de l'approbation d'autrui. J'ai le goût délicat et difficile, et notamment à mon endroit. Je me sens flotter et fléchir par faiblesse. Je n'ai rien qui vienne de moi et qui puisse satisfaire mon jugement. J'ai la vue assez claire et juste, mais elle se trouble quand je m'en sers. Oh, j'en fais l'expérience surtout en poésie. Je l'aime infiniment, je juge assez bien des ouvrages des autres, mais je ne suis en vérité qu'un enfant quand je veux y mettre la main, et je ne puis supporter ce que j'écris. On peut dire des sottises partout ailleurs, mais pas en poésie. Les dieux, les hommes, les colonnes où s'affichent leurs livres, tout défend au poète d'être médiocre, dit Horace. Plût à Dieu que cette sentence figurât au fronton des boutiques de tous nos imprimeurs pour en défendre l'entrée à tant de versificateurs. Mais il est vrai que rien n'a plus d'assurance qu'un mauvais poète, Martial. Que n'avons-nous de tel peuple que cela? Denis l'Ancien n'estimait rien tant que ses propres vers. À l'époque des Jeux olympiques, avec des chars qui dépassaient tous les autres en magnificence, il envoyait aussi des poètes et des musiciens pour présenter ses vers dans des tentes et des pavillons dorés et royalement tapissés. Quand on se mit à déclamer ses vers, l'attention de la foule fut d'abord attirée par l'excellente qualité de la diction. Mais quand ensuite elle put se rendre compte de l'ineptie de l'œuvre, elle en conçut du mépris. Puis bientôt son jugement tourna à l'aigre, et elle finit par se mettre en fureur et de dépit, s'empressa d'abattre et de déchirer tous les pavillons. Et comme ensuite ces chars eux-mêmes ne remportèrent aucun succès dans les courses, et que le navire qui ramenait ces gens, après avoir manqué la Sicile, fut poussé par la tempête et se fracassa sur la côte de Tarente, on tint pour certain que tout cela était dû à la colère des dieux irrités contre lui à cause de son mauvais poème. Et les marins qui avaient échappé au naufrage ne faisaient eux-mêmes qu'abonder dans le sang de l'opinion du peuple. C'est d'ailleurs cette idée qu'il sembla conforter aussi l'oracle qui avait prédit sa mort. Cet oracle disait que Denis serait près de sa fin quand il aurait vaincu ce qui valait mieux que lui, ce qu'il interpréta comme étant les Carthaginois, dont la puissance était supérieure à la sienne. Et quand il se frottait à eux, il s'arrangeait souvent pour ne pas remporter la victoire, ou la modérait pour ne pas risquer de voir se réaliser cette prédiction. Mais il l'interprétait de travers. Le dieu annonçait par là le moment où il l'emporta à Athènes par la faveur et l'injustice sur les poètes tragiques qui étaient pourtant meilleurs que lui quand il fit jouer sa pièce intitulée « Les Lénéiens » dans une compétition. Sitôt après avoir remporté la victoire, il trépassa, et d'ailleurs en partie à cause de la joie excessive qu'il en avait éprouvée. Ce que je trouve excusable, s'agissant de moi, ne l'est pas en soi et ne l'est pas vraiment. mais il l'est par comparaison avec d'autres choses bien pires encore auxquelles je vois qu'on accorde du crédit. J'envie le bonheur de ceux qui savent se réjouir et trouver une récompense dans ce qu'ils font. C'est d'une façon commode se donner du plaisir, puisque c'est un plaisir que l'on tire de soi-même. Et j'envie spécialement ceux qui mettent de la fermeté dans leur détermination. Je connais un poète à qui les forts et les faibles, la foule et les proches, le ciel et la terre, crient qu'il n'est pas très bon en la matière. Ce n'est pas pour autant qu'il renonce à rien de la stature qu'il s'est donnée. Toujours il recommence, toujours réfléchit et toujours persiste, d'autant plus ancré dans son opinion qu'il ne dépend que de lui seul de s'y maintenir. Quant à mes ouvrages, à moi, il s'en faut de beaucoup qu'ils me plaisent. À chaque fois que je les réexamine, ils me déçoivent et me laissent dépité. Quand je relis cela, j'ai honte de l'avoir écrit, tant j'y vois de choses qui, même pour leur auteur, mériteraient d'être effacées. Ovide. J'ai toujours dans l'esprit une idée qui me présente une forme meilleure que celle que j'ai mise en chantier. Mais je ne parviens ni à la saisir, ni à l'exploiter. J'en tire la conviction que les productions de ces riches et belles âmes du temps passé sont situées bien au-delà des limites de mon imagination et de mes souhaits. Leurs écrits ne font pas que me satisfaire et me combler. Ils me frappent et me saisissent d'admiration. Je juge leur beauté, je la vois, sinon tout entière, mais du moins aussi loin qu'il m'est à moi impossible d'aspirer à parvenir. Quoi que j'entreprenne, je dois un sacrifice aux grâces, comme le dit Plutarque à propos de quelqu'un, pour obtenir leur faveur. Car tout ce qui plaît et charme les sens des hommes, c'est aux aimables grâces que nous le devons. Mais elles me font défaut à chaque instant. Tout est grossier chez moi, tout manque de polissure et de beauté. Je ne sais pas faire valoir les choses pour plus qu'elles valent, et mon intervention n'apporte rien à la matière dont je traite. Voilà pourquoi il me faut qu'elle soit forte, avec beaucoup d'emprise sur le lecteur, et qu'elle brille d'elle-même. Quand j'utilise des sujets populaires et plus gais, c'est pour suivre mon propre penchant. Moi qui n'aime pas la sagesse cérémonieuse et triste, comme tout le monde. C'est pour me faire plaisir à moi-même, et non pour égayer mon style, qui préfère les choses sévères et graves. Si du moins je peux nommer style une façon de parler informelle et sans règle, un jargon populaire, une façon de faire imprécise, sans division, sans conclusion. Trouble, enfin, à la façon d'Amalfius et de Rabirius. Je ne sais ni plaire, ni réjouir, ni chatouiller agréablement. La meilleure histoire du monde se dessèche et se ternit entre mes mains. Je ne sais parler que sérieusement, et je suis tout à fait dénué de cette facilité que j'observe chez beaucoup de mes compagnons d'entretenir les premiers venus et de tenir en haleine toute une assemblée ou amuser, sans le lasser, l'oreille d'un prince par toutes sortes de propos. La matière ne leur fait jamais défaut, car ils ont ce don de savoir utiliser la première venue, de l'accommoder au goût de ceux à qui ils ont affaire, et de la mettre à leur portée. Les princes n'aiment guère les sujets austères, ni moi raconter des histoires. Les arguments essentiels et les plus faciles, ceux qui sont en général les mieux acceptés, sont ceux que je ne sais pas utiliser. Je suis mauvais prêcheur pour la foule. Sur tous les sujets, je dis volontiers les choses les plus importantes que j'en sais. Cicéron estime que, dans les traités de philosophie, la partie la plus difficile, c'est l'exorde. Si cela est vrai, je ferais bien de m'intéresser plutôt à leurs conclusions. Il faut savoir bien pincer la corde pour produire toutes sortes de tons, et le plus aigu est celui dont on fait le moins souvent usage. Il y a au moins autant de mérite à enjoliver un sujet creux qu'à en développer un grave. Il faut savoir tantôt manier les choses superficiellement, tantôt les approfondir. Je sais bien que la plupart des hommes se contentent de rester au premier niveau parce qu'ils ne conçoivent les choses que d'après leur première écorce. Mais je sais aussi que les plus grands maîtres, notamment Xénophon et Platon, se laissent souvent aller à cette façon triviale et populaire de dire les choses, trouvant toujours des formules élégantes pour la soutenir. Au demeurant, mon langage n'est ni facile ni bien poli, il est plutôt rugueux et dédaigneux. Ses mouvements sont libres et sans règles. Il me plaît ainsi, non par jugement, mais par inclination naturelle. Pourtant, je sens bien que parfois je m'y abandonne trop, et qu'à force de vouloir éviter l'art et l'affectation, j'y retombe par un autre côté. Voulant être brève, j'en deviens obscur. Platon dit que la brièveté ou la longueur ne sont pas des propriétés qui ôtent ou donnent du prix à un langage. Quand bien même je chercherais à adopter un style égal, uni et ordonné, je ne saurais y parvenir. Et même si le rythme et les périodes de Salluste s'accordent mieux à mon caractère, je trouve pourtant César plus grand et moins facile à imiter. Et si mon penchant me porte plus vers l'imitation du langage de Sénèque, je ne l'estime pas moins davantage celui de Plutarque. En acte comme en parole, je suis tout simplement ma pente naturelle. C'est peut-être pour cela que je suis plus à l'aise en parlant qu'en écrivant. Le mouvement et la gestuelle animent les paroles, notamment chez ceux qui s'agitent brusquement, comme je le fais, et qui s'échauffent en parlant. Le port de tête, le visage, la voix, le costume, l'attitude peuvent donner du prix à des choses qui n'en ont par elles-mêmes, comme le verbiage. Mais Sala se plaint dans Tacite des accoutrements étroits et de la façon dont étaient faits les bancs des orateurs, qui selon lui nuisaient à leur éloquence. Mon français est altéré dans sa prononciation, comme dans d'autres domaines, par la barbarie de mon terroir. Je n'ai jamais vu un homme de nos contrées du Sud qui ne fasse nettement sentir son accent et qui ne blesse pas les oreilles purement françaises. Et ce n'est pas pour autant que je suis bien expert en périgourdin. Je ne maîtrise pas plus que l'allemand, et peu m'importe. C'est un langage du même ordre que ceux qui m'entourent, le Poitevin, le Saintongeais, l'Angoumousin, le Limousin, l'Auvergnat. Il est mou, traînant, verbeux. Il y a bien, au-dessus de nous, vers les montagnes, un gascon que je trouve singulièrement beau, sec, bref, expressif, et en vérité c'est un langage mâle et militaire, plus qu'aucun autre que je comprenne. Il est aussi nerveux, puissant et direct que le français, et gracieux, délicat et abondant. Quant au latin, qui m'a été donné comme langue maternelle, j'en ai perdu l'habitude et, de ce fait, l'apprentitude à pouvoir m'en servir pour parler et même à écrire, ce qui autrefois me faisait appeler Maître Jean. Voilà bien mon peu de valeur de ce côté-là. La beauté est un élément d'une grande importance dans les relations entre les hommes. C'est la première cause d'entente entre eux, et il n'est pas d'homme si barbare ni si hargneux qui ne se sente frappé par sa douceur. Le corps joue un grand rôle dans ce que nous sommes. Il y tient une place importante. Sa structure et son organisation méritent donc d'être prises en considération. Ceux qui veulent séparer nos deux principaux constituants et les maintenir à part l'un de l'autre ont tort. Au contraire, il faut les rassembler et les unir. Il faut ordonner à l'âme non pas de se plier sur elle-même, de vivre de son côté, de mépriser et abandonner le corps. Et elle ne saurait d'ailleurs y parvenir que par quelques singeries apprêtées, mais au contraire de se rallier à lui, l'embrasser, le chérir, l'aider, le contrôler, le remettre dans le bon chemin et l'y ramener quand il en sort, l'épouser en quelque sorte, et lui servir de mari, pour que leurs actions ne paraissent pas si différentes, si contraires, mais bien accordées et uniformes. Les chrétiens ont une particulière connaissance de cette liaison, car ils savent que la justice divine fait sienne cette association, cette sorte d'assemblage du corps et de l'âme, au point de rendre le corps susceptible de recevoir des récompenses éternelles. Ils savent aussi que Dieu regarde l'homme globalement et veut qu'il reçoive dans sa totalité un châtiment ou une récompense selon ses mérites. L'école péripatéticienne, la plus humaine de toutes les écoles philosophiques, attribue à la sagesse la tâche de fournir et de procurer leur bien en commun à ces deux parties réunies. Elle montre ainsi que les autres écoles, pour ne pas être suffisamment attachées à tenir compte de ce mélange, ont pris parti, l'un pour le corps, l'autre pour l'âme, faisant la même erreur et se sont ainsi éloignés de leur véritable sujet, qui est l'homme, et de leur guide, qu'elles reconnaissent en général être la nature. Il est vraisemblable que l'homme, l'avantage offert par la beauté, fut à l'origine de la première distinction qui se fit entre les hommes, et qui donna aux uns la prééminence sur les autres. Le partage des terres et leur distribution se firent à proportion de la beauté, de la force et de l'esprit, car la beauté avait grande importance et la force imposait le respect. Lucrèce. Or, je suis, moi, d'une taille un peu inférieure à la moyenne, et cette insuffisance n'est pas seulement vilaine, elle a aussi des inconvénients, notamment pour ceux qui exercent des commandements et des responsabilités, car il leur manque l'autorité que donne une certaine majesté du corps et une belle prestance. Caius Marius ne recrutait pas volontiers de soldats qui ne faisaient 6 pieds de haut. Le courtisan a bien raison de préférer que le gentilhomme dont il s'occupe ait une taille ordinaire plutôt qu'exceptionnelle, et de refuser pour lui toute particularité qui le ferait montrer du doigt. Mais s'agissant d'un militaire, et s'il ne rentre pas dans la moyenne, je ne choisirais pas, moi, qu'il soit plutôt en deçà qu'au-delà d'elle. Les petits hommes, dit Aristote, sont bien jolis, mais ne sont pas beaux. Et c'est à la grandeur que se reconnaît la grande âme, tout comme la beauté dans la haute taille. Les Éthiopiens et les Indiens, dit Aristote, quand ils élisaient leur roi et leur magistrat, tenaient compte de leur beauté et de leur stature. Ils avaient raison, car voir un chef de belle stature et haute taille marcher à la tête d'une troupe inspire du respect à ceux qui le suivent et de l'effroi à l'ennemi. Notre grand roi divin et céleste, dont toutes les particularités doivent être relevées avec soin, pieusement et respectueusement, n'a pas renié la distinction corporelle, le plus beau entre les fils et les hommes. Et Platon souhaite la beauté en même temps que la modération et la grandeur d'âme pour ceux qui veilleront sur sa république. C'est une grande vexation lorsqu'on s'adresse à vous au milieu de vos gens pour vous demander « Où est monsieur ?» et que vous n'avez que le reste du coup de chapeau que l'on adresse à votre barbier ou à votre secrétaire. C'est ce qui arriva à ce pauvre Philopemène. Comme il était arrivé en premier avant sa troupe en un logis, où il était attendu, l'hôtesse, qui ne le connaissait pas et lui trouvait assez mauvaise mine, l'envoya aider un peu ses femmes à puiser de l'eau et à tiser le feu pour Philopemène. Quand les gentilshommes de sa suite arrivèrent, ils le surprirent occupé à ses nobles travaux, car il n'avait pas manqué d'obéir aux ordres qu'on lui avait donnés, et lui demandèrent ce qu'il faisait là. « Je paye, leur répond-il, pour ma laideur. » Les autres aspects de la beauté concernent les femmes. la beauté de la taille est la seule beauté des hommes. Si l'on est petit, ni la largeur et la courbe du front, ni la clarté et la douceur des yeux, ni la forme peu marquée du nez, ni la petitesse de l'oreille et de la bouche, ni la régularité et la blancheur des dents, ni une barbe épaisse et unie couleur châtaigne, ni les cheveux drus, ni la juste proportion de la rondeur de la tête, ni la fraîcheur du teint, ni l'air agréable du visage, ni l'absence d'odeur, ni la juste proportion des membres, rien de tout cela ne pourra faire un bel homme. J'ai moi-même, au demeurant, la taille forte et épaisse, le visage non pas gras mais plein, et ma complexion hésite entre le jovial et le mélancolique, moyennement sanguine et chaude. Ma santé est bonne et vigoureuse, rarement troublée par les maladies jusqu'à un âge avancé. Du moins, j'étais ainsi, et non pas maintenant que je suis engagé dans les avenues de la vieillesse, ayant depuis longtemps dépassé les 40 ans. Peu à peu, les forces et la vigueur sont vaincues par l'âge, et voici que vient la décrépitude. Lucrèce. Ce que je serai dorénavant, ce n'est plus qu'un demi-être, ce ne sera plus vraiment moi. Je m'échappe et me dérobe à moi-même tous les jours. Je n'ai reçu ni adresse ni agilité. Je suis pourtant le fils d'un père très alerte et d'une vitalité qui se prolongea jusqu'à son extrême vieillesse. Il ne rencontra guère d'homme de sa condition qui puisse l'égaler pour l'exercice physique, alors que j'en ai guère trouvé qui ne m'y surpasse, moi, sauf à la course, où j'étais dans les moyens. En musique, ni pour la voix, pour laquelle je suis resté très peu doué, ni pour les instruments, on n'a jamais réussi à rien m'apprendre. À la danse, à la paume, à la lutte, je n'ai réussi à acquérir qu'une maîtrise fort limitée et très ordinaire, et rien du tout en ce qui concerne la nage, l'escrime, la voltige, le saut. J'ai les mains si malhabiles que je ne sais même pas écrire pour mon propre compte, de sorte que ce que j'ai griffonné, j'aime mieux le refaire que de me donner la peine de le déchiffrer. Eux, je ne lis guère mieux. Je sens que je suis pénible pour ceux qui m'écoutent, mais à part ça, bon lettré. Je suis incapable de plier et cacheter une lettre comme il faut. Je n'ai jamais su tailler une plume, ni découper correctement la viande à table, ni harnacher un cheval, ni porter un oiseau de proie sur le poing et le faire s'envoler, ni parler aux chiens, aux oiseaux, aux chevaux. Mes aptitudes corporelles sont en somme tout à fait en rapport avec celles de l'âme. Rien de très remarquable, seulement une belle et solide vigueur. Je suis dur à la peine, mais seulement si c'est de mon fait, et aussi longtemps que le désir m'y porte. Le plaisir fait oublier l'austérité du travail, dit Horace. Et à l'inverse, si je n'y suis alléché par quelque plaisir possible, et si je n'ai d'autre guide que ma pauvre et libre volonté, je n'y vaux rien. Car j'en suis au point où, mis à part la santé et la vie, il n'est rien pour moi que je ne rongerai les ongles et que je serai prêt à acheter contre des soucis et des contraintes. À ce prix, je ne voudrais pas de l'eau sombre du Tage, même avec tout l'or qu'elle roule vers la mer, juvénale. Je suis tout à fait disponible et libre par nature et par ma volonté. Je prêterai aussi volontiers mon sang que mes soucis. J'ai une âme qui n'appartient qu'à elle-même, habituée à se conduire à sa guise. N'ayant eu jusqu'à maintenant ni chef ni maître imposé, j'ai marché aussi loin et au pas qu'il m'a plu de prendre. Cela m'a amolli, rendu inepte à servir les autres, et ne m'a pas fait bon qu'à moi. Il ne m'a pas été nécessaire de lutter contre ce naturel lourd, paresseux et fainéant. Je me suis trouvé, dès ma naissance, à la tête d'une fortune telle que j'ai pu m'en contenter, mais avec suffisamment de bon sens pour sentir que je le pouvais. C'était une situation que, pourtant, 1000 autres de ma connaissance eussent considérée plutôt comme un tremplin vers quelque chose de plus, dans l'agitation et l'inquiétude. Quant à moi, je n'ai rien recherché, et rien acquis non plus. L'aquilon favorable n'enfle pas ma voile. Le vent du sud contraire ne freine pas ma course. En force, talent, beauté, vertu, naissance, je suis dans les derniers des premiers et dans les premiers des derniers. Horace. Je n'ai eu besoin que du talent de me contenter de ce que j'avais. Ce qui est tout de même, si on y regarde bien, une règle de vie difficile à suivre en toutes circonstances, et que dans la pratique nous trouvons plus souvent appliquée dans la disette que dans l'abondance. D'autant que, peut-être, comme il en est pour les autres passions, la fin des richesses est plus aiguisée par leur usage que par leur manque, et que la vertu de la modération est plus rare que celle de la patience. Je n'ai donc eu besoin que de jouir tranquillement des biens que Dieu, par sa libéralité, avait placés entre mes mains. Je n'ai tâté d'aucune sorte de travail ennuyeux. Je n'ai eu guère à m'occuper que de mes propres affaires, ou bien ce ne fut qu'à la condition de ne les mener à ma façon et à mon heure, confiées qu'elles m'étaient par des gens qui me faisaient confiance et me connaissaient. Qu'il ne me bousculait pas. Car d'un cheval rétif et poussif, les gens habiles savent encore obtenir des services. Mon enfance elle-même a été conduite d'une façon douce et libre, exempte de rigoureuse obéissance. Tout cela m'a donné un caractère fragile, qu'il ne faut pas trop solliciter, au point que même maintenant, j'aime que l'on me cache mes pertes et les désordres qui me touchent. Au chapitre de mes dépenses, je compte ce qu'il me coûte ma nonchalance à entretenir et à nourrir ma maison. C'est ici le plus surplus échappé au regard du maître et qui profite aux voleurs, dit Horace. J'aime ne pas connaître le compte de ce que j'ai pour ressentir moins précisément ce que je perds. Je prie ceux qui vivent avec moi, quand ils n'ont pas l'affection nécessaire et les bons offices qui devraient l'accompagner, de me tromper et de me payer de bonne apparence. Faute d'avoir assez de fermeté pour supporter les inconvénients des événements désagréables auxquels nous sommes tous exposés, et ne pouvoir me tenir prête à régler et ordonner mes propres affaires, je nourris en moi autant que je peux, m'abandonnant ainsi totalement au hasard du destin, cette façon de voir les choses qui consiste à prendre toutes choses au pire et me résoudre à supporter ce pire-là avec douce résignation et patience. C'est à cela seulement que je travaille et le but vers lequel s'acheminent toutes mes réflexions. En présence d'un danger, je ne pense pas tant aux moyens d'y échapper que combien il importe peu que j'y échappe. Quand j'y resterai, quelle importance! Ne pouvant régler les événements, je me règle moi-même et m'adopte à eux s'ils ne s'adoptent pas à moi. Je ne suis pas très doué pour esquiver les coups du sort et lui échapper ou le dominer, ni pour arranger et diriger habilement les choses dans mon intérêt. Je supporte encore moins le soin rigoureux et pénible qu'il faut y mettre. Et la situation pour moi la plus pénible, c'est d'être en suspens au milieu d'affaires pressantes, tiraillé entre la crainte et l'espérance. Avoir à décider, même des choses les plus insignifiantes, me dérange. Mon esprit a plus de difficultés à supporter les mouvements et les secousses diverses provoquées par le doute et l'interrogation qu'à se ranger à quelque partie que ce soit et à s'y tenir quand le sort en est jeté. Peu de passions ont troublé mon sommeil, mais la moindre des décisions à prendre le fait. Sur les chemins, j'évite volontiers les côtés pentus et glissants pour me jeter dans leur fond le plus boueux et où l'on enfonce le plus, parce que je n'y risque pas d'aller plus bas et que j'y cherche la sécurité. Il en est de même dans les malheurs que je préfère définitifs, qui ne me permettent plus d'hésiter et ne me tracassent plus, parce qu'il est trop tard pour leur trouver une improbable solution et qui me jettent tout droit dans la souffrance. Les malheurs incertains sont les plus pénibles, Sénèque. Devant les événements, je me comporte en homme et, pour les diriger, comme un enfant. La crainte de la chute me trouble plus que la chute elle-même. Le jeu ne vaut pas la chandelle. L'avare souffre plus de sa passion que le pauvre de son état, et le jaloux que le cocu. Il est souvent moins pénible de perdre sa vigne que de plaider pour la conserver. La marche la plus basse et la plus solide, c'est le fondement de la fermeté. Vous n'y avez besoin que de vous, elle trouve là son assise et repose entièrement sur elle-même. Voici l'exemple d'un gentilhomme que bien des gens ont connu. N'a-t-il pas quelque valeur philosophique ? Il se maria sur le tard, ayant passé sa jeunesse en bon compagnon, grand raconteur d'histoire, grand amuseur. N'oublions pas combien le sujet du cocuage lui avait fourni de quoi parler et se moquer des autres. Il pensa se mettre à l'abri en épousant une femme qu'il prit en un lieu où chacun peut en trouver pour son argent, et établit avec elle cette règle « Bonjour putain, bonjour cocu ». Et il n'y avait rien dont il parlait plus souvent avec ceux qui lui rendaient visite que de ces dispositions par lesquelles il refrenait les bavardages secrets des moqueurs et émoussait les piques qu'il eût pu concourir. Quant à l'ambition qui est voisine de la présomption, ou plutôt sa fille, il aurait fallu, pour me pousser vers les bonheurs, que le hasard fût venu me prendre par la main. Car j'eusse pas été capable de me mettre en peine pour une espérance incertaine et supporter toutes les difficultés qui sont le lot de ceux qui cherchent à se pousser pour être en faveur au début de leur ascension. Je m'attache à ce que je vois et que je tiens et ne m'éloigne guère du port. Et puis on n'obtient pas grand-chose dans ces promotions si ce n'est en mettant d'abord en jeu ses propres biens. Et je considère que si ce qu'on a suffit à se maintenir dans la condition qui était la nôtre à la naissance et dans laquelle on a grandi, c'est folie que de lâcher cela pour le vague espoir de l'améliorer. Celui à qui le sort refuse de quoi prendre pied quelque part et se faire une existence tranquille et calme, celui-là est pardonnable s'il hasarde ce qu'il possède, puisque de toute façon la nécessité la contraindrait. Dans l'adversité, mieux vaut prendre la voie hasardeuse, Sénèque. J'excuse plutôt un cadet de risquer sa part d'héritage que celui qui a la charge de l'honneur de la famille et qui se retrouve nécessiteux entièrement par sa faute. J'ai trouvé, avec l'aide de mes bons amis du temps passé, le chemin le plus court et le plus commode pour me détacher de ce désir et me tenir tranquille. Car je juge sainement que mes forces ne sont pas capables de grandes choses. Et je me souviens de ce mot de feu le chancelier Olivier. Les Français ressemblent à des guenons qui grimpent dans les arbres, sautant de branche en branche jusqu'à ce qu'elles soient arrivées à la plus haute, et parvenus là, ils montent leur cul. Il est stupide de se charger d'un poids qu'on ne peut soutenir, pour ensuite fléchir les genoux et s'en débarrasser, propers. Même les qualités que je possède et qui ne souffrent pas de reproches, je les trouvais inutiles à notre époque. La facilité de mon caractère, on l'aurait taxé de lâcheté et de faiblesse. Ma loyauté et ma conscience, on les aurait trouvées tatillonnes et superstitieuses. ma franchise et ma liberté, importune, irréfléchie et téméraire. À quelque chose, malheur est bon. Il est bon de naître à une époque très dépravée, car en comparaison des autres, vous êtes considéré comme vertueux, à bon marché. Qui n'est que parricide et sacrilège de nos jours est un homme de bien et d'honneur. Juvénal disait, « Si maintenant ton ami ne nie pas ce que tu lui as confié, s'il te rend ta vieille bourse avec sa monnaie rouillée, c'est un miracle de bonne foi, digne de figurer sur les tablettes étrusques, et qu'il faut célébrer en immolant une jeune brebis couronnée. Il n'y eut jamais d'époque ni de lieu où les princes aient pu tirer de bénéfices plus certains et plus grands de la bonté et de la justice. Je serais bien étonné si le premier qui aurait l'idée d'accroître sa faveur et sa réputation par ce moyen-là ne devançait facilement ses compagnons. La force et la violence peuvent bien quelque effet, mais pas toujours sur tout. Les marchands, les juges de village, les artisans rivalisent de vaillance et de science militaire avec la noblesse. Ils mènent d'honorables combats, en public comme en privé. Ils se battent et défendent leur ville dans les guerres civiles actuelles. La renommée d'un prince se trouve comme étouffée dans cette foule. Qu'il brille par son humanité, son honnêteté, sa loyauté, sa modération et surtout par sa justice. Ce sont là des marques rares, inconnues et tenues à l'écart. Ce n'est que par le consentement de la population qu'il peut conduire ses affaires, et il n'est pas de qualité qui puisse aussi bien que celle-là conquérir son cœur. Ce sont celles qui lui sont le plus utiles. Rien n'est aussi populaire que la bonté, Cicéron. Dans les conditions de notre époque, donc, j'aurais pu me considérer comme grand et extraordinaire, tout comme je me sens un pygmée et un homme bien ordinaire par rapport à certains siècles passés, dans lesquels il était commun, si d'autres qualités plus importantes ne s'y ajoutaient, de voir un homme modéré dans ses vengeances, peu sensible aux offenses, scrupuleux dans le respect de la parole donnée, ni à double face ni souple, n'ajustant pas ce qu'il pense à la volonté des autres, ni aux circonstances. Je me laisserais plutôt tordre le cou par les affaires que de tordre ma foi pour leur service. Car s'agissant de cette nouvelle vertu, si forte à la mode aujourd'hui, et qui consiste à feindre et à dissimuler, j'ai pour elle une haine capitale. Je ne trouve parmi tous les vices aucun qui témoigne autant de lâcheté et de bassesse. C'est un comportement de couard et d'esclave que d'aller se déguiser, se dissimuler sous un masque et de ne pas oser se montrer tel qu'on est. C'est par là que nos contemporains s'entraînent à la perfidie. Habitués à parler faux, ils n'ont pas conscience de manquer à la vérité. Un noble cœur ne doit pas déguiser ce qu'il pense. Il veut se montrer jusqu'au fond, où tout y est bon ou tout au plus, tout y est humain. Aristote considère que c'est le rôle d'une grande âme que de haïr et aimer ouvertement, de juger et de parler en toute franchise et de se soucier plus de la vérité que de l'approbation de la réprobation d'autrui. Apollonios disait qu'il appartenait aux esclaves de mentir et aux hommes libres de dire la vérité. C'est la première et fondamentale partie de la vertu, il faut l'aimer pour elle-même. Celui qui dit la vérité parce qu'il y est contraint d'une certaine façon, parce que cela lui est utile, et qui ne craint pas de mentir quand cela n'a pas d'importance, celui-là n'est pas véritablement honnête. Mon âme, de par sa constitution, se refuse au mensonge et en déteste même la pensée. J'éprouve une honte intérieure et un remords cuisant quand un mensonge m'échappe, comme cela arrive parfois, quand je suis pris de court par des circonstances qui me troublent. Il ne faut pas toujours dire Ce serait une sottise. Mais ce que l'on dit, il faut que ce soit ce qu'on pense, sinon c'est de la perversité. Je ne sais quel avantage on attend de feindre de se déguiser sans cesse, si ce n'est à la fin de n'être pas cru même quand on dit la vérité. On peut ainsi tromper les gens une fois ou deux, mais faire profession de dissimulation et prétendre, comme l'ont fait certains de nos princes, qu'ils en mettraient leur chemise au feu si elle était dans le secret de leurs véritables intentions. Formule attribuée à Metellus Macédonicus dans l'Antiquité, et que celui qui ne sait pas feindre ne sait pas régner, c'est avertir ceux avec qui on va négocier que l'on ne fera que mentir et tricher. Ce serait une grande naïveté que de se laisser influencer par le visage ou les paroles de celui qui a pour principe de se montrer toujours différemment à l'extérieur de ce qu'il est au-dedans, comme le faisait Tibère. Et je me demande quelle part de tels gens peuvent avoir dans leur relation avec les autres hommes, puisqu'ils ne disent rien qui ne puisse être pris pour argent comptant. Qui n'est pas loyal envers la vérité ne l'est pas non plus envers le mensonge.